BFM Bourse, le club de la bourse.
Les experts du club ce soir, Valentine Hénouze, donc en fil rouge, Amundi Institute. Rebonsoir Valentine.
Bonsoir.
Et Xavier Chapon, il nous rejoint, directeur de la gestion cotée de la dette privée d'Arkéa AM. Bonsoir Xavier.
Bonsoir.
On est ravis de vous accueillir l'un et l'autre. Comment vous les sentez ces marchés là, Xavier? L'Europe, mine de rien, le CAC 40 est pas très très loin de ses records. Hein. On est à un peu moins de 2% là, actuellement du plus haut historique pour le CAC 40. Le Stoxx 600 a battu il y a encore quelques heures un nouveau record. À Wall Street, c'est le Dow Jones. Enfin bref, c'est tout sauf le Nasdaq et le S&P là qui bat des records. La rotation, vous sentez que pour le deuxième semestre, elle est partie pour durer?
Alors la rotation, oui, la rotation à la fois sectorielle et géographique. Je pense que aujourd'hui sur l'Europe, on a des éléments, des facteurs favorables à une reprise des marchés de façon assez significative. C'est vrai qu'on est très très proche des points hauts de février et cela devrait normalement continuer. Et comme vous le citiez, vous avez des sociétés technologiques de défense qui sont aujourd'hui la proie. Bonne proie de belles sociétés comme Thales. Ouais. Et vous avez des IPO qui sont à venir également pour KNDS. Donc on voit bien qu'il y a des sociétés qui sont prêtes à apparaître sur le marché. Nous avons une vraie rotation sectorielle. Nous avons des BOC qui se comportent très très bien, qui sont en très bonne santé. Et un secteur de la défense qui reprend de bonnes couleurs par rapport à ce qu'on a pu connaître en ce début d'année.
D'accord, mais alors juste, vous changez vos paris pour ce deuxième semestre, comment est-ce que vous voyez les opportunités là sur les marchés? Alors, en termes géographiques d'abord peut-être, et puis ensuite on parlera secteur, on parlera aussi du marché obligataire bien sûr.
Alors en ce qui concerne la géographie, oui, une préférence à l'Europe, ça c'est une première chose. Aussi une préférence à l'Asie, et toujours au Japon, à la Corée du Sud. Nous avons des marchés qui sont extrêmement favorables en Asie, qui ont très très bien marché en 2025, mais qui devraient continuer de très bien fonctionner sur 2026. Et on est vraiment positionné sur l'Asie, à la fois sur la partie obligataire et sur la partie action. Ça nous paraît vraiment, le point à prendre cette année. Sur les États-Unis, on voit bien que les investissements dans le domaine de l'IA et les Mag 7 commencent à vraiment peser sur les valorisations des entreprises. Et on a une problématique de l'emploi, une inflation qui reste toujours présente. Et on voit bien que même si le PMI manufacturier reste dans un territoire positif au-dessus de 53, on est néanmoins dans une zone de flou artistique, à la fois lié au mid-term, mais aussi à la situation américaine intérieure.
D'accord, donc plutôt l'Europe. Je comprends le PMI manufacturier, mais on a l'ISM des services aujourd'hui qui fléchit un peu, mais on reste au-dessus de 54 quand même pour cette ISM. Il y a les mid-term, c'est vrai, qui peuvent mettre un peu d'incertitude. Plutôt l'Europe. Valentine, comment vous regardez-vous le rapport de force entre Europe et États-Unis pour ce deuxième semestre et donc à travers cette question, en filigrane, la question de la rotation géographique, la rotation sectorielle, on parlera obligataire dans un instant, mais est-ce que vous sentez que les moteurs vont changer d'aile? On va passer de l'aile gauche, en tout cas des États-Unis, vers plutôt l'Europe ou en tout cas les économies plus traditionnelles.
Bon, on est revenu, on partage la même avis, on est revenu sur les idées, les recommandations qu'on avait en ce début d'année, hein, où notre métage c'était regarder les niveaux de valorisation sur certains segments aux États-Unis, de la tech sont extrêmement élevés, niveaux de concentration élevés. Donc nous on va privilégier, on reste positif sur les actifs risqués, mais on va privilégier tout ce qui est hors ce segment où les niveaux de valorisation sont beaucoup trop tendus. On va favoriser les émergents, on va favoriser l'Europe. Ce qui est important de comprendre, c'est que cet environnement aujourd'hui est toujours positif pour les actifs risqués. Il y avait ce conflit au Moyen-Orient qui a quand même dominé les marchés sur ce premier semestre. Aujourd'hui, on a un prix du baril du Brent qui est revenu à $72. Donc, notre scénario, c'est quand même ce conflit est quand même aujourd'hui derrière nous. Devrait se dessiner aux États-Unis, en Europe, des pressions des inflationnistes. Et nous, on pense il y aura peut-être une hausse de taux de la BCE, mais néanmoins, on va revenir après sur des baisses de taux. Donc, il y a quand même un environnement aujourd'hui qui est favorable au risque, avec une croissance qui tient, un risque quand même qui est moindre sur l'inflation. Ce choc sur les prix de l'énergie, il est quand même derrière nous. Il faut quand même garder à l'esprit qu'en mars, on va avoir des effets de base très négatifs sur l'énergie. Donc, c'est un environnement qui est favorable au risque, mais quand même, attention, au segment du marché où les niveaux de valorisation sont quand même très tendus et où on voit quand même toutes ces grandes entreprises de la tech sont en train de changer de modèle économique, hein, même si les attentes sont extrêmement élevées en termes de profits pour les prochaines années et les modèles économiques ne sont plus les mêmes. Avant, on était sur des entreprises qui générait du cash, qui avait peu d'actifs, pas de besoin de financement. Aujourd'hui, c'est des entreprises qui utilisent leur cash flow pour investir, des investissements massifs, qui commencent à accumuler des actifs et qui ont des besoins de financement qui sont monstrueux, hein, sur le marché action et sur les marchés obligataires. Donc, on est absolument plus dans la même configuration.
Oui, et est-ce que la tech est en train de devenir peut-être aussi plus cyclique qu'avant, plus dépendante des taux monétaires parce qu'elle a besoin de lever de l'argent? Alors elle le fait aussi en levant des actions, on attend l'introduction en bourse d'Anthropic, mais aussi en levant de plus en plus de dettes. Vous vous attendez à une poursuite des annonces de levées obligataires de la part des acteurs de la tech?
Bah oui, ils vont devenir maintenant des acteurs structurels, hein, sur le marché obligataire. Alors sur le marché US, hein, mais aussi ils émettent aussi en euros, hein. Donc on voit encore beaucoup, d'émissions euros de ces acteurs américains. Et pour l'instant, le marché les absorbe relativement bien. Il n'y a pas de sujet. Pour moi, c'est quand même plutôt un sujet de valorisation sur le marché action où on voit que ces entreprises, elles n'ont plus du tout le même profil de risque qu'avant. Et je ne suis pas sûr que ça soit complètement pris en compte par le marché action aujourd'hui.
Oui, vous pensez qu'il y a une menace même en termes de valorisation, de décrochage de certaines valeurs tech justement qui entraînent l'ensemble du marché, ou au contraire on verrait tout ce qui n'est pas tech, alors il y a de plus en plus de tech dans tout maintenant, mais bon, oui, ce qui n'est pas pure tech, au contraire tenir même si la tech baissait, est-ce que vous voyez ça se profiler en l'occurrence, Xavier?
Je pense qu'il faut faire une dissociation, ça c'est sûr, mais c'est vrai que les entreprises de la tech aujourd'hui ont fait d'énormes investissements. Ça commence à peser dans leurs résultats, ça pèse évidemment dans leurs besoins de cash flow. Et aujourd'hui, en termes de valorisation, oui, elles sont extrêmement élevées. Je pense qu'elles sont en train de rentrer en fait dans, je dirais, un système plus classique des bourses. Et donc, oui, les valorisations devraient rebaisser. Moi, je ne suis pas du tout favorable au fait d'aller remettre de l'argent sur ces valeurs. Il y a énormément de dettes émises, il y a énormément d'argent positionné pour avoir acheté un certain nombre de sociétés, beaucoup de cash engagé. Aujourd'hui, il va falloir trouver les dividendes de ces investissements et on n'y est pas du tout. Et on le voit bien avec SpaceX, avec son introduction en bourse. Oui, ça s'est très très bien passé, mais ça a perdu quand même 30%
depuis les plus hauts.
Les plus hauts.
Oui, on parlera dans un instant de l'intégration demain de SpaceX dans le Nasdaq 100. Mais plus globalement, quand on regarde les publications, là, parce qu'on va rentrer dans la saison de publication, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, les grandes banques américaines commencent à publier la semaine prochaine, les anticipations sont très positives encore, même sans la tech. Alors c'est vrai, grâce à la tech aussi, en moyenne, on attend aux États-Unis une hausse des bénéfices de 25% pour les entreprises du S&P 500. Et ici, en Europe aussi, on attend une accélération des hausses bénéficiaires par rapport au premier trimestre. Comment vous regardez ces anticipations? Est-ce qu'on est trop optimiste? Est-ce qu'au contraire, il va falloir les réviser à la hausse parce que les taux finiront peut-être par baisser aussi au fur et à mesure de la suite de l'année avec cette moindre inflation attendue?
Alors, tout dépendra, c'est vrai, aussi des impacts de l'inflation qu'on a connue sur le premier semestre.
Oui.
Aujourd'hui, c'est vrai, le pétrole est redescendu à 72, c'est très bien. On revient sur les niveaux d'origine, mais on a quand même un effet retardateur de toute cette hausse de l'inflation qu'on a pu avoir pendant plusieurs mois. Donc, ça va se retrouver quand même dans les entreprises. Donc, il y a quand même ce point-là qui est à prendre en compte et qui a pesé sur beaucoup de petites et moyennes entreprises. Oui, les grosses sociétés n'ont eu véritablement de problème. Elles avaient du stock, elles ont pu aussi négocier à leur avantage un certain nombre de choses. Mais les petites et moyennes entreprises, elles n'ont pas été dans cette configuration-là. Donc, c'est quand même là qu'il va falloir faire quand même attention et bien s'assurer que cette baisse de l'énergie va véritablement leur rapporter dans les prochains mois. Et on peut le voir, il y a beaucoup d'introductions en bourse de petites et moyennes entreprises qui ont vraiment besoin de cash, qui ont besoin de se positionner. On a le CIP français, bon voilà, c'est un exemple comme un autre, mais c'est vrai que c'est important de le voir. Ça veut dire que, quoi qu'il en soit, ils ont besoin d'arriver sur le marché pour capter du cash, pour continuer d'investir. Ils ont revu complètement leur modèle et avec un modèle beaucoup moins utilisateur de coûts, mais cela signifie aussi qu'ils ont besoin de se revisiter. Et se revisiter, c'est le cas du CIF français, c'est le cas de beaucoup d'entreprises françaises et européennes aujourd'hui. Et Il faudra faire attention à ces valorisations-là. Pas pour les grandes, pas pour les grands marchés, pas pour le CAC 40, mais très clairement pour les petites et moyennes entreprises, où là, il y a un véritable effet retardateur sur les coûts.
Vous partagez ça, Valentine, en l'occurrence, cette distinction entre grandes et petites ?
Je la trouve extrêmement importante, et pour moi, la question bulle pas bulle, la réponse, elle est franchement pas évidente. On débat beaucoup de ce sujet. Pour moi, ce qui est évident, c'est qu'il y a des déséquilibres importants et que c'est plutôt, que c'est pas juste un sujet action maintenant. Cette bulle action, elle est devenue un sujet macro, un sujet pour les investisseurs tôt. On le regarde tous. Et pour moi, ce qui est important, c'est est-ce que la Fed, pour ça, je trouve cette dynamique sur l'inflation, elle est clé. Est-ce que la Fed va être capable de baisser ses taux? Parce que les conditions de financement ne sont pas les mêmes pour l'ensemble de l'économie américaine ou plus largement l'ensemble de l'économie mondiale. Il y a quand même des conditions de financement ultra accommodantes pour les grandes entreprises, beaucoup moins pour les petites entreprises. Et si on veut que cette histoire de l'IA, des gains de productivité à l'échelle de l'économie américaine, il faut qu'on ait un élargissement de ce cycle de CAPEX. Aujourd'hui, si on regarde les CAPEX, c'est vraiment l'histoire des hyperscalers, des utilities qui ont besoin de l'électricité. C'est vraiment l'histoire de certaines grandes entreprises. Après, on voit aussi aux États-Unis, c'est l'histoire de certaines industries hein, qui relocalisent une partie de leur production à cause de la hausse des droits de douane. Mais ça, c'est quand même moins important. Mais si on veut vraiment voir une histoire positive sur l'IA, des gains de productivité, il faut que l'ensemble de l'économie américaine investisse. Et pour ça, il faut que les conditions de financement soient accommodantes pour toute l'économie américaine. Ce qui n'est pas franchement, je trouve, le cas vraiment aujourd'hui.
Pour l'Europe, qu'est-ce qu'on attend des publications là ? Enfin, on se dit ça va justement apporter, parce que je sens plus d'inquiétude quand même sur les États-Unis. Vous craignez peut-être un peu plus des ruptures, hein, même si l'IA apporte du potentiel, qu'en Europe où c'est un peu mou, mais je sens que vous la sentez moins venir la rupture ici en Europe, Valentine.
Il y a moins de risques sur l'économie européenne. Alors, déjà, les attentes sont beaucoup moins élevées. Mmh. Après, on a le soutien budgétaire de l'Allemagne. Voilà, on s'attend à une croissance, voilà, cette année qui tourne autour de 0,5-0,8. L'année prochaine, une croissance qui revient à 1. Bon, je ne pense pas qu'on puisse être franchement déçu par ces attentes. Et puis, on a toujours le soutien budgétaire allemand qui devrait être important et qui devrait permettre de maintenir une dynamique positive sur certains secteurs, les infrastructures, la défense. Donc, voilà, moins d'inquiétude pour l'Europe.
La défense, vous y croyez toujours, justement. On attend toujours, effectivement, ce grand cycle de dépenses allemand. Demain, d'ailleurs, les membres de l'OTAN se réunissent aussi en Turquie, les 32 pays membres, pour deux jours. C'est lors de ce genre de sommet, la dernière fois que les membres de l'OTAN s'étaient réunis, qu'une annonce avait été faite, celle d'effectivement accepter d'augmenter les dépenses consacrées à la défense à hauteur de 5% du PIB de chaque pays. Voilà, donc ces réunions-là sont importantes. Est-ce que vous pensez que le secteur de la défense a encore la hausse devant lui ou qu'elle est passée la phase haussière de ce secteur ?
En ce qui me concerne, je pense qu'il est très important de se dire que les besoins en termes de défense sont grandissants, que ce soit par les investissements des États dans le domaine, comme le besoin général que l'on peut avoir à travers toutes les technologies qui servent à la défense, mais qui ne sont pas que pour la défense. Donc oui, ce secteur pour moi est particulièrement important, est un secteur qui va continuer d'évoluer favorablement. On a de plus en plus de petites entreprises qui sont en train d'émerger, évidemment dans le domaine des drones, mais pas que. On parle d'Exel, bien sûr, mais il n'y a pas que Exel. Il y a énormément d'entreprises qui sont en train de sortir de la forêt. Et il y a vraiment de la valeur, parce qu'il y a de la technologie. Il y a une disruption, en fait, dans le domaine de la défense qui est très, très fort depuis 2022. Et cela va évidemment amener des valorisations bien supérieures à celles que l'on peut connaître aujourd'hui.
Défense, donc, c'est un pari que vous prendriez à nouveau pour la suite, même si elles déçoivent un petit peu depuis le début de l'année.
Tout à fait.
Ok, en termes sectoriels, toujours, vous voyez quoi d'autre ?
Les banques.
Ah, les banques.
Les banques européennes. Aujourd'hui, elles sont dans une configuration où elles peuvent continuer de prêter. Il y a une hausse du crédit, à la fois du crédit aux entreprises et du crédit aux ménages. Donc ça, c'est un point qui est quand même assez important. Ça signifie que la transformation est favorable pour les banques européennes et il y a toujours un véritable potentiel en termes d'investissement de la part des ménages européens sur en termes de consommation, parce qu'il y a énormément d'argent de côté de la part des uns et des autres. Donc, en fait, pour les banques, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement favorable. Et donc, il va y avoir un besoin de consommation supérieure, des prêts à la fois dans la conso, à la fois pour de nouveau pour l'immobilier, je l'espère. Ça va être peut-être compliqué parce que le marché reste quand même assez morose. Mais néanmoins, il y a un besoin de transformation sur l'immobilier, en particulier en France, et surtout avec l'évolution en termes de climat qui vont demander de plus en plus d'investissement d'infrastructures.
Avec les canicules à répétition, Valentine.
Et surtout, si on regarde sur les banques, nous on partage cette recommandation, c'est si on regarde la courbe des taux, elle devrait pour nous se repentifier.
Bien sûr.
Parce que qu'est-ce qu'on a ? On va continuer d'avoir un soutien budgétaire important de la part des États, notamment pour le secteur de la défense, et c'est pas un soutien budgétaire de 6 mois, hein, c'est un soutien budgétaire pour les prochaines années. Donc ça, pour nous, on reste assez prudent sur les parties longues des courbes, parce qu'aujourd'hui, on a les investisseurs obligataires qui sont très très sensibles à ce risque budgétaire, hein, et il faut absorber tous ces montants d'investissement. À l'échelle mondiale, il y a quand même des besoins de financement aujourd'hui qui sont monstrueux, hein. Donc être prudent sur les parties longues des cours parce qu'il y a quand même des potentiels de taux plus élevés. Et par contre, 2027, nous en 2027, on voit plus trop de risques sur l'inflation en zone euro et on voit la BCE à nouveau baisser ses taux. Et cette configuration, elle est extrêmement positive pour les financières.
Oui, la BCE qui baisserait ses taux l'an prochain, donc voilà, c'est le scénario.
C'est le scénario avec...
avec des effets de base sur le pétrole spectaculairement favorables.
Des effets de base et surtout pas d'effet de second tour de cette hausse des prix de l'énergie le risque de diffusion au reste de l'économie, le risque d'avoir une inflation qui soit de façon soutenable élevée, on le trouve assez faible, hein. On a quand même un marché de l'emploi aujourd'hui en zone euro qui reste assez fragile.
Bon, on poursuit nos échanges dans un instant. 17h20, on est à un quart d'heure de la clôture. On entre dans la dernière ligne droite de cette séance. Le CAC 40 recule aujourd'hui. -0,49%. ArcelorMittal et Pernod Ricard sont lanterne rouge. -2,8% ArcelorMittal. -2,5% Pernod Ricard. Et puis à la hausse, on a Stellantis là, qui récupère 1,7%. Airbus aussi en hausse d'1,8%. Un mot d'Exel et Thalès, toutes deux progressent. Mais enfin, les actionnaires ne s'alignent pas sur l'offre de Thalès. Hein. Thalès propose 134 € par action pour rachat d'Exel. Là, on n'est pas à 134 sur Exel. Même si le titre progresse, il n'est qu'à 125,50 €, une hausse de 2,5%. Thalès aussi progresse d'1,4% parce que beaucoup de synergies sont attendues de ce rapprochement avec Exail. On en parle ce soir avec Xavier Chapon et Valentine Hénouze. Sur les publications, on risque d'avoir un effet favorable en plus quand même aux États-Unis. C'est le fait que des entreprises pourraient imiter Nike, à savoir, vous savez, il y a eu le remboursement par l'administration Trump des droits de douane qui avaient été jugés illégaux, pas constitutionnels par la Cour suprême, donc des remboursements aux entreprises. Et ben, on va faire passer ça dans les bénéfices, c'est à peu près ce qu'a fait Nike. Est-ce qu'on peut imaginer que beaucoup d'entreprises jouent à ça pour gonfler un peu les bénéfices aussi et que le marché sera dupe, Xavier ?
Non. Non, je pense pas qu'il
soit rendu. Non ? Vous seriez pas dupe du truc.
Bah on partage le même point de vue ?
Oui.
Non, il regarde un peu plus long terme quand même.
Oui, d'accord. Tout ça passe à la moulinette sans aucun problème. Bon, le pétrole, $72. Est-ce que le marché, on est toujours sur les cours d'avant-guerre, hein, sur le pétrole, ça tient. Il n'y a pas de reprise des discussions attendues entre Washington et Téhéran avant jeudi, parce que là, l'Iran est en pleine phase de funérailles de l'Ali Khamenei, et donc les États-Unis ont annoncé une pause dans les discussions jusqu'à jeudi. Voilà, de l'Ayatollah, Ali Khamenei, c'est mieux comme ça. Est-ce que le pétrole, le fait qu'il reste sous ses cours de début de la guerre, est en train de nous envoyer un message, à savoir, on sort d'une phase où on craignait une pénurie, on va entrer dans une nouvelle phase où on va anticiper une abondance, voire une surabondance de pétrole. Est-ce que c'est à ça qu'il faut s'attendre sur ce marché-là, Xavier ?
Alors, une surabondance déjà aux États-Unis. La production est très élevée. Les exportations également. On a le détroit d'Ormuz qui est en train de s'ouvrir un petit peu. Donc, nous avons de nouveau des flux. Maintenant, je pense que ce qu'il est important de regarder aujourd'hui, c'est la demande. Savoir si la demande ne s'est pas un petit peu corrigée sur ces derniers mois, c'est adapté à la situation élevée du pétrole et que donc on a aussi un effet retardateur du prix lié à cette demande qui est moins importante. Et puis en plus, il y a des stocks. Les stocks sont importants un peu partout, que ce soit des stocks stratégiques comme les stocks des entreprises. Et donc, on le disait il y a quelques mois, si on arrivait à revoir un prix du pétrole revenir sur les niveaux d'avant-guerre avant la fin juin, ça allait, ça avait un effet, évidemment, de court terme, important, très important, mais qui ne se retrouvait pas dans les besoins des entreprises. Donc, on est dans cette configuration.
Valentine, là-dessus ?
Ah, moi, je je suis très, très étonné du peu de volatilité du prix du pétrole pendant ce conflit. On nous avait quand même annoncé 20% de la production de pétrole mondial qui va être retirée du marché. Pour moi, dans cette configuration, voir des prix du pétrole partir à 150, voire au-dessus du dollar de baril, ne m'aurait pas étonné, faut quand même que j'avoue. Et j'ai quand même été très surprise de cette peu de volatilité sur le prix du pétrole et à quelle vitesse le prix du pétrole est revenu. Donc, je pense qu'on est vraiment dans un environnement où il y a une offre qui est abondante et il y a surtout une structure de la demande qui est en train d'évoluer. Et je pense qu'il faut vraiment surveiller du côté chinois. Il y a l'électrification de l'économie chinoise qui est aujourd'hui en train de s'accélérer. Et une des conséquences, parce que certains maintiennent un prix du pétrole un peu plus élevé par rapport à ce que le marché a aujourd'hui valorise aujourd'hui en disant il y a toujours une prime de risque dans la zone, mais pour moi cette prime de risque dans la zone va plutôt se traduire par un pétrole qui peut être peut-être plus bas, parce que si la Chine veut ne plus vraiment dépendre de cette zone à risque du Moyen-Orient en accélérant son électrification, et ça c'est ce qu'on aura peut-être pour moi dans les trimestres à venir avec un prix du pétrole qui pourrait baisser .
Oui, et la Chine est restée relativement excédentaire en pétrole. Elle s'est même permise, en plein cœur du conflit, d'exporter une partie de son pétrole vers l'Australie, par exemple.
C'est ce qui a vraiment évité cette volatilité sur les prix du pétrole. Et là, je pense qu'une des volontés très fortes de la Chine, ça va être on veut dépendre de moins en moins de cette zone qui est à risque. On veut être plus indépendant. Et ça va être... c'est pas quelque chose de très court terme, mais ça, pour moi, c'est quelque chose qui va être à prendre en compte par les investisseurs sur les prochaines années. On va vraiment être, pour moi, encore dans un environnement où l'offre de pétrole va rester assez abondante.
Oui. Donc, pas de risque inflationniste lié à ces matières premières-là, en tout cas.
Voilà. Ça va dans ce sens de cette idée que la BCE, l'année prochaine, va pouvoir baisser ses taux, que la Fed a un peu plus de marge de manœuvre malgré ses pressions inflationnistes à cause de ce cycle d'investissement. Voilà, il y aura plus de marge de manœuvre.
Est-ce que le signe noir sera japonais, pour le coup? On n'a pas parlé du Japon, mais les taux japonais sont élevés. Le yen est au plus bas depuis 40 ans, lui, face au dollar, quand même. Ça arrive alors qu'on entre dans l'été. Et généralement, l'été, le Japon, ça se passe pas très bien sur les marchés financiers. Comment vous regardez ce mouvement? Il va y avoir forcément un mouvement monétaire, Valentin?
C'est un point extrêmement important. Et pour moi, il y a quand même un risque aujourd'hui sur les taux longs. Les investisseurs japonais, c'est des grands acheteurs de dettes, notamment de dettes françaises. Il faut quand même garder à l'esprit que la dette française, pour un quart, est détenue par des investisseurs étrangers non résidents de la zone euro, et qu'aujourd'hui, pour ces investisseurs, les taux sur leur marché domestique deviennent beaucoup, beaucoup plus attractifs. Donc, ces investisseurs japonais aujourd'hui qui se positionnaient hors de leur marché domestique, ces mouvements, ça va prendre un peu de temps parce qu'ils ont des réunions annuelles pour leurs allocations, mais pour moi, il y a quand même des changements structurels qui vont sûrement se mettre en place et qui vont amener des pressions haussières sur les taux longs, notamment en zone euro.
Mais pour l'instant, ça se traduit... Est-ce que ça se traduit vraiment, ça?
Non, c'est long.
Le 10 ans français est à 3,6, le 10 ans allemand à 2,9.
Pour l'instant, ça reste très contenu. Pour moi, c'est plutôt... Ils mettent du temps avant de changer leur allocation d'actifs, mais c'est plutôt des mouvements de long terme, mais qui vont quand même... Ça reste un vrai risque.
Oui, Japon, vous regardez... C'est le signe noir, là, pour le coup, possible, Japon?
Pour les taux, oui. Pour les taux, oui. Après, en termes d'économie, je trouve que c'est une économie qui reste résiliente et qui est quand même dans la même configuration, un petit peu différente, mais de celle de la Corée du Sud. En revanche, il est clair, pour les taux, on a une politique de banque centrale qui est beaucoup plus restrictive, ils remontent les taux, on a des taux longs qui vont augmenter, donc cela veut dire de toute façon des investisseurs japonais qui petit à petit vont se poser la question de revenir sur leur marché domestique et de sortir des États-Unis ou de l'Europe. Le différentiel de taux aujourd'hui n'est pas encore suffisamment favorable, mais on connaît la capacité des investisseurs japonais à changer leur fusil d'épaule, soit de zone géographique, soit à revenir chez eux. Et le carry trade reste quelque chose de très, très à la mode encore.
Oui,
les Japonais.
Les négociations salariales annuelles au Japon, c'est quand même spectaculaire, on vous donne le chiffre, ont abouti à une hausse des salaires moyennes dépassant les 5% là, pour la troisième année consécutive. Ça met quand même en avant aussi la résilience de cette économie japonaise et ça va conforter la Banque du Japon dans sa volonté sans doute de continuer à relever les taux.
Et puis la devise, elle remonte pas. Il ne faut pas oublier qu'une partie de leur alimentation est importée. Une grande partie des produits consommés au Japon sont importés. Donc, cette faiblesse de la devise, c'est un vrai sujet pour les acteurs économiques japonais.
Ça fera partie des éléments à suivre cet
vraiment,
été.
Je suis vraiment d'accord avec ce point de vue.
C'est technique, mais c'est important.
C'est très, très important. Ouais.
Et puis SpaceX. Demain, SpaceX intègre... Alors, c'est moins important, sans doute. Enfin, c'est important ou pas que SpaceX intègre le Nasdaq 100 demain, après 25 jours seulement. Depuis 25 jours, le titre est coté, voilà, et ils intègrent déjà le Nasdaq 100, ce qui va, du coup, sans doute lui bénéficier. Hein. Il y a plein d'ETF qui vont devoir acheter ce titre SpaceX. Est-ce que c'est important, Xavier ?
Important, non, en fait. Je ne trouve pas, pas pour nous. En revanche, la période de publication fait que oui, c'est un bon moment pour eux d'apparaître sur le Nasdaq parce que justement, comme vous le disiez, les ETF vont investir de façon naturelle. Donc, les 30% qu'on a perdu, on va peut-être pouvoir les revoir dans l'autre sens. Mais est-ce que c'est important? Je dirais, c'est un épiphénomène. Voilà.
SpaceX, c'est un épiphénomène oui. ou c'est ouais, d'accord. D'accord.
Valentine, je pousse le trait.
Alors je suis une fille, je regarde les taux, moi. Je regarde vraiment SpaceX, pour moi, c'est vraiment un indicateur sur ce côté un peu d'exubérance du cycle, de cette confiance des investisseurs dans ce cycle de l'IA. Pour moi, je regarde ça voilà, comme un indicateur de confiance. SpaceX, je trouve qu'il est très, très bon.
D'après Odo BHF, les fonds indiciels, donc les ETF, pourraient absorber 80% des actions qui seront remises sur le marché, des actions SpaceX qui seront remises sur le marché au prochain lock-up. Vous savez, il y a des fenêtres de vente pour les investisseurs historiques, les actionnaires historiques qui vont arriver. Mais 80% de ces actions qui seront rendues seront absorbées par les achats des ETF Nasdaq. Voilà. Et puis pour l'intégration dans le S&P 500, il faudra rester patient, hein, c'est dans un an. Le S&P a pas craqué là-dessus. Ils n'ont pas changé, le S&P, leurs règles pour accélérer l'introduction de SpaceX dans l'indice, contrairement au Nasdaq 100.
Je parie, ils n'ont pas dû avoir de coup de téléphone de Trump.
Ah, vous croyez ? Ouais. Remarque, Donald Trump, il appelle le patron de la FIFA pour demander le retrait d'un carton rouge, et il y a retrait de carton rouge hein, pendant le mondial. Oui. Tout ça continue, hein. La parole américaine, elle est vraiment abîmée en ce moment. Le dollar a bien remonté quand même depuis le début de l'année. C'est pour ça que je me dis, c'est bien sûr, on peut se dire la crédibilité est écorchée, mais en réalité, sur le marché, est-ce que ça se voit tant que ça, Valentine?
Si on regarde Kevin Warsh, il a réussi son pari. Hein, il a renforcé la crédibilité de la Fed. Le premier discours à son entrée en fonction a été plutôt réussi. Donc non, dans ce sens-là, la crédibilité américaine n'a pas été entachée. Quoi. Elle était à risque, mais il y a quand même des institutions qui restent solides.